Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Encore un dimanche chargé pour le pape François, un mois et un jour après son élection. Un dimanche marqué par un appel pressant au courage d'évangéliser et au témoignage de vie. Devant une foule immense à midi, le Saint-Père a demandé que l'on prie pour les chrétiens persécutés dans le monde. Et en début de soirée, il a célébré l'Eucharistie dans l'une des quatre basiliques majeures de Rome, Saint-Paul, hors les murs. Dans son homélie, il a fustigé l'incohérence des fidèles et des pasteurs qui minent la crédibilité de l'Église. Compte rendu dans ce magazine. Vous entendrez également l'épouse de Martin Hirsch, une mère de famille qui a abandonné la finance pour la culture. Le pape François a invité les fidèles à prier pour les chrétiens persécutés dans le monde. Le Saint-Père s'exprimait ce dimanche à midi devant une foule de quelques 80 000 personnes venues l'écouter sous un beau soleil à l'occasion de la prière du Regina Coeli. Le Saint-Père a une fois encore exhorté les chrétiens à témoigner de leur foi en dépit des incompréhensions et des adversités. Olivier Tosserie.
Le pape François avait choisi de commenter une des lectures de la liturgie ce troisième dimanche de Pâques, un texte qui raconte la première prédication des apôtres à Jérusalem. Ils annoncent que Jésus est vraiment ressuscité conformément aux Écritures. Les prêtres et les autorités vont essayer de briser la communauté naissante des chrétiens, mais les apôtres vont trouver la force de témoigner avec joie et courage malgré les obstacles et les violences, malgré leurs propres limites. Devant une foule chaleureuse et enthousiaste brandissant des banderoles en plusieurs langues, le Saint-Père a alors lancé un appel en faveur des très, très nombreux chrétiens qui souffrent de persécutions dans tant et tant de pays. Prions pour eux avec amour du fond du cœur, qu'ils sentent la présence vivante et réconfortante du Seigneur ressuscité. Le pape François a encouragé les chrétiens dans le monde à suivre l'exemple des premiers disciples du Christ. Il a exhorté ceux qui rencontrent des incompréhensions ou l'adversité à répondre avec l'amour et la force de la vérité. Si les apôtres ont pu persévérer, c'est parce que le Seigneur était avec eux et le Saint-Esprit les poussait à la prédication. L'histoire de la première communauté chrétienne vaut pour l'Église de tous les temps et même pour nous. Quand on connaît vraiment Jésus-Christ, on ne peut pas s'empêcher de communiquer cette expérience. Le souverain pontife a demandé aux fidèles de prier pour que l'Église dans le monde entier annonce avec franchise et courage la résurrection du Seigneur et offre un témoignage crédible par des gestes d'amour fraternel. L'amour fraternel, a-t-il dit, est le meilleur témoignage que nous puissions donner concrètement de la présence de Jésus au reste du monde.
Après la prière du Regina Coeli, le pape François a salué chaleureusement tous les pèlerins venus de nombreux pays et en particulier les jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation. Parmi les très nombreux fidèles présents sur la place Saint-Pierre, nous avons rencontré un jeune prêtre français du diocèse de Vannes, le père Jean-Marie Surel.
La semaine sainte que nous venons de vivre avait une intensité particulière puisque nous venions de vivre l'élection d'un nouveau pape qui nous a invités justement à regarder le Christ comme ayant vécu pauvre, comme étant miséricordieux et nous rappelle ce qui doit nous animer en tant que chrétiens et ce qui est cœur de la foi. Le Christ qui est mort et qui est ressuscité. Aujourd'hui, nous devons nous rappeler ça de manière particulière et que c'est cela que nous devons annoncer aux gens qui ne croient pas aujourd'hui et à ceux qui sont plus ou moins éloignés de l'Église. L'Église doit toujours se rappeler qu'elle est là pour les plus pauvres. Alors, les plus pauvres matériellement, les plus pauvres spirituellement.
C'est l'une des quatre basiliques majeures de Rome. C'est le lieu de sépulture de saint Paul, l'apôtre des gentils. Une semaine après son installation à Saint-Jean-de-Latran, cathédrale de Rome, le pape François a effectué sa première visite à saint Paul hors les murs. Le Saint-Père est sorti du Vatican en début de soirée pour célébrer la messe à 17h30 dans cette basilique construite puis reconstruite sur le cimetière où a été enterré saint Paul après son martyre. Dans son homélie, le pape François a fustigé l'incohérence des fidèles et des pasteurs qui minent la crédibilité de l'Église. Incohérence entre ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Il a exhorté les chrétiens à se dépouiller des idoles qui l'empêchent d'adorer le Seigneur. L'ambition, le goût du succès, le fait de se mettre soi-même au centre, la tendance à dominer les autres, la prétention d'être les seuls maîtres de notre vie. Il a rendu hommage à ceux qui, en diverses parties du monde, souffrent à cause de l'Évangile et dont le témoignage est marqué par le prix du sang. Il y a aussi les saints de tous les jours, a-t-il dit, les saints cachés, une sorte de classe moyenne de la sainteté dont tous peuvent faire partie. Le nouveau pontife demande aux chrétiens d'annoncer l'Évangile avec courage et fidélité et par le témoignage de leur vie. La basilique Saint-Paul hors les murs est située à l'extérieur de la vieille enceinte romaine, sur la route consulaire menant à Ostie, le port de Rome. Cette basilique a la particularité d'abriter depuis 1300 ans une communauté monastique bénédictine qui s'occupe notamment de l'accueil des pèlerins et des offices quotidiens. Le père Jean-Marie Pomares, bénédictin travaillant au tribunal de la Rote romaine, nous présente cette basilique majeure.
Il semblerait que l'origine des appellations basilique majeure on revient aux années du jubilé. Pour gagner le jubilé, c'était les basiliques qu'il fallait visiter. De fait, quatre ont une certaine priorité. Saint-Pierre et Saint-Paul, parce que c'est les tombes des princes des apôtres. Saint-Jean, parce que c'est la cathédrale de Rome. Et Sainte-Marie-Majeure, parce que c'est la plus ancienne et la plus grande des basiliques consacrées à la Sainte Vierge.
Cette basilique-là est un peu différente de toutes celles qu'on peut voir à Rome. Enfin, je parle des quatre principales, des quatre majeures. Elle a un aspect un peu plus ancien, mais dans le même temps assez moderne, assez lisse. D'où vient la physionomie actuelle que l'on voit aujourd'hui de la basilique ?
Des basiliques majeures, c'est celle qui a l'architecture la plus ancienne. Elle a été construite à la fin du IVe siècle, détruite par un incendie au XIXe siècle et reconstruite sur le même plan que la basilique précédente. Alors que, par exemple, Saint-Pierre est du XVIe, Sainte-Marie-Majeure a été énormément modifiée au cours des temps et le Latran a été reconstruit entièrement au XIIIe siècle. Toutes les quatre ont au départ, les trois au moins, Saint-Jean, Saint-Paul et Sainte-Marie-Majeure ont le plan basilical avec une nef centrale plus haute que les nefs latérales. Mais à Saint-Paul-hors-les-Murs, l'espacement et la hauteur des colonnes de la nef centrale font qu'on a en quelque sorte une vue beaucoup plus dégagée sur les colonnades des nefs latérales. Donc quand on rentre dans la basilique, l'une des premières choses qui frappe, c'est cet aspect de forêt de colonnes. 80 colonnes, primitivement en marbre, mais après la reconstruction du XIXe siècle, en granit dit du Saint-Plon.
Depuis Paul VI, la dimension écuménique de Saint-Paul-hors-les-Murs est assez prononcée. Pourquoi cette basilique et pas une autre ? Est-ce qu'il y a une raison spécifique ?
Quand on parle œcuménisme, on pense d'abord, bien sûr, aux protestants et aux orthodoxes qui, tous les deux, pris globalement, reconnaissent l'apôtre Saint-Paul. Et c'est ainsi que, lors de la reconstruction du XIXe siècle, le tsar de Russie avait offert une quantité de marbre de malachite, marbre précieux, pour la reconstruction. Donc, lorsqu'on fait la clôture de la semaine de l'œcuménisme avec des prélats pas en union complète avec Rome, à Saint-Paul-hors-les-Murs, ils se sentent à l'aise. Ils ont ce lien avec l'apôtre Saint-Paul qui y est enterré. Il reste l'apôtre des nations, l'un des fondements, la transmission de la révélation par l'Écriture.
Le père Pomares, interrogé par Xavier Sartre. Le nouvel archevêque de Tunis est entré en fonction ce dimanche, nommé par Benoît XVI le 21 février. Monseigneur Ilario Antoniazzi a reçu son ordination épiscopale le 16 mars à Nazareth, des mains du patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foitoile. Tous deux sont attendus au Vatican du 15 au 18 avril. Ils seront accompagnés des vicaires du patriarcat latin de Jérusalem. Une douzaine d'évêques ont été invités à participer à la cérémonie d'installation dans la cathédrale de Tunis, des évêques venus de Libye, Algérie, Maroc et Sicile. Âgé de 64 ans, le nouvel archevêque de Tunis est un Italien, mais c'est en Terre Sainte qu'il a exercé son apostolat. Il a été notamment curé de Ramée en Galilée et directeur général des écoles du patriarcat latin de Jérusalem en Israël. Les chrétiens de Syrie ont le choix entre deux coupes amères, mourir ou partir. C'est avec des accents dramatiques que l'archevêque maronite de Damas évoque la situation dans un témoignage envoyé à l'agence Vatican Fides. Monseigneur Samir Nassar affirme que ce dilemme concerne toute la réalité ecclésiale dans ce pays martyr. Des millions de civils sans défense, chrétiens et musulmans, affrontent la mort en Syrie, un pays dévasté par la guerre. Bombardements, attentats suicides, absence de médicaments et de nourriture, hôpitaux fermés, médecins en fuite. L'église locale, malgré sa fragilité, est devenue un mur des lamentations, affirme Monseigneur Nassar. Chaque jour, nombreux sont ceux qui s'adressent à elle pour demander protection ou être aidés dans la recherche d'un visa pour partir à l'étranger. Mais les églises ne parviennent pas à apaiser la tempête et les pasteurs sont confrontés eux aussi à un dilemme. Leur dire de rester, c'est les condamner à mort. Les aider à partir veut dire vider la terre biblique de ces derniers chrétiens. L'invité de ce dimanche se laisse découvrir par les titres de ses nombreux livres. Un de ses ouvrages s'intitule « J'ai fait HEC et je m'en excuse ». Florence Noiville est journaliste, critique littéraire et écrivain. Après avoir travaillé pendant quelques années dans une multinationale américaine, elle a abandonné la finance pour la culture. Elle est aujourd'hui responsable de la littérature étrangère au monde des livres. Elle est aussi la femme de Martin Hirsch et la mère de 3 enfants. Elle est interrogée par Catherine Aubin.
Florence Noiville, vous êtes actuellement écrivain et journaliste, mais vous ne l'avez pas toujours été. Et parmi les titres de vos nombreux livres, il y a un titre avec lequel on peut commencer à vous interroger. J'ai fait HEC et je m'en excuse. Vous avez donc fait HEC, Florence Noiville ?
Les deux sont vrais. J'ai bien fait l'HEC et je continue de demander pardon d'une certaine façon, oui. Vous allez me demander pourquoi.
Ben oui, alors je vous demande pourquoi, Florence Noiville.
D'abord, je pense que à l'époque, j'étais comme une espèce de jeune bachelière qui réussissait bien dans ses études et puis qui ne s'était pas posé beaucoup de questions. Et donc, voilà, on m'a dit tu es prise en classe préparatoire à Louis le Grand. Bon, c'était prestigieux. Puis après, j'ai dit c'est quoi l'étape d'après ? Ben, l'étape d'après, c'est de réussir le concours d'HEC. Bon, vous voyez, le genre de parcours où on se dit je saute des haies les unes après les autres sans vraiment se poser la question. Et la question de qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie, eh bien, je me la suis posée en réalité très tard.
Quel a été le déclic ?
Le déclic, c'est que ça faisait 4 ans que je faisais de la finance pour une grosse corporation américaine et que je me suis dit un jour, mais ma foi, je ne peux pas faire ça, je ne vais pas pouvoir faire ça toute ma vie, ce n'est pas possible. Ce n'est pas que c'était inintéressant intellectuellement, c'était une sorte de gymnastique un peu rigolote, mais ça ne meublait pas du tout une vie, du point de vue du sens. C'était pauvre. Au fond, la finalité ultime de ça, c'était, on me disait, « Well, Florence, listen, how can you maximize profit ? » Comment est-ce que vous pouvez maximiser le profit ? Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas consacrer ma vie à ça. Et là, les problèmes ont commencé, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse au fond ? Alors ça, c'est quand même une question intéressante d'être face à soi-même et de se dire, « Allez, tu réponds honnêtement, qu'est-ce qui t'intéresse au fond ?»
Tu creuses.
Et j'ai creusé et je me suis dit, mais au fond, c'est la culture. Et la littérature m'intéressait. Sauf que je voyais bien que j'avais envie d'écrire, mais j'osais pas me le dire à moi-même. Ça paraissait un peu prétentieux, moi, écrivain. Bon. Je me suis dit, faisons une espèce de marche d'approche un peu modeste et on va procéder par étapes. Et là, je dois beaucoup au groupe Bayard Presse. J'avais trouvé une petite annonce dans la presse. Ils cherchaient aussi quelqu'un qui faisait de la finance. Donc j'ai dit, d'accord, moi je veux bien faire ça pour vous pendant 2 ans. Mais après, est-ce que vous seriez d'accord pour que je passe du côté créatif, du côté des rédactions ? Et ils m'ont dit, d'accord, on peut essayer. C'est un peu bizarre votre parcours, mais vous êtes sûr que vous voulez renoncer à HEC, à tout, gros salaire, à tout. Je dis bah oui, moi au fond j'ai envie d'essayer de changer de vie. Et ils ont joué le jeu, donc vraiment je leur dois quelque chose. Et après, donc après 2 ans, j'ai divisé mon salaire par 2 et j'ai commencé à écrire pour des publications de Bayard Presse. Et puis de fil en aiguille, je suis devenue journaliste et de fil en aiguille, je suis devenue écrivain, voilà.
Et vos premières publications, c'était déjà des publications pour enfants ?
Oui, c'était des publications pour enfants.
Pourquoi des publications pour enfants ?
Alors, parce que j'avais 3 enfants moi-même et que je pensais à tort qu'écrire pour les enfants, c'était plus facile. Mais non, bien sûr que non. Quelle erreur ! C'est beaucoup plus... Enfin, c'est très exigeant en réalité.
Et parmi les titres de vos livres pour enfants, il y a un titre tout à fait évocateur, « Les clés du paradis ».
Ah oui, c'est une famille qui doit déménager, quitter la maison de famille, donc la belle maison de famille cossue dans la banlieue parisienne. Et la petite fille, ou l'une des petites filles, est totalement désespérée. J'ai écrit ce livre pour dire que quand on a eu une enfance heureuse dans un lieu, c'était son cas. C'était comme si ça formait un socle pour toujours.
Quelles sont les grandes questions en tant que chrétienne qui vous traverse pour écrire ?
Pour écrire, je crois... Alors, vous savez, il y a un écrivain qui a dit « j'écris avec ce que je ne comprends pas ». Donc j'essaye de m'approcher de quelque chose de mystérieux à chaque fois. C'est ça le déclic pour chaque livre. Il y a un autre livre qui s'appelle « La donation ». Qui est sur les relations entre mère et fille. Et ces relations sont un petit peu biaisées par le fait que la mère, dans mon roman, est atteinte de maladies bipolaires. Elle est maniaco-dépressive. Comment est-ce que ça va façonner la vie de la fille ? Et puis un autre roman, là, le plus récent, qui s'appelle « L'attachement », qui est sur qu'est-ce qui se passe en nous, qu'est-ce qui se joue en nous quand, dans une passion amoureuse, on s'attache justement à quelqu'un dont on n'aurait jamais dû en réalité s'approcher, parce qu'il se trouve qu'il y a une grande différence d'âge entre la jeune fille et puis l'homme dont elle tombe amoureuse. Vous voyez, c'est à chaque fois une sorte de questionnement un petit peu mystérieux, quelque chose qui nous dépasse complètement, mais qui nous emporte en même temps, dont j'ai envie de m'approcher pour le creuser. Je ne dis pas que je trouve nécessairement une question, mais l'aspect psychanalytique, l'aspect littéraire, l'aspect philosophique, l'aspect scientifique aussi, parce que là, dans le dernier roman, l'héroïne est étudiante en médecine et donc elle résonne aussi à travers la neurobiologie, à travers des choses comme ça. Et puis, bien sûr, l'aspect spirituel me guide pour essayer de m'approcher du mystère.
D'un mystère, vous dites ce qui me déporte, ce qui me dépasse, mais aussi d'un mystère qui nous fait vivre.
Oui, mais absolument, qui nous fait vivre. Et ça, c'est le, je ne sais pas, c'est le côté mystérieux, extrêmement, extrêmement stimulant, extrêmement attachant, parfois extrêmement dur aussi de la vie au quotidien. Parce que la passion amoureuse, ce n'est pas toujours drôle. Ça peut être aussi de la souffrance. Mais qu'est-ce qui fait que, je ne sais pas, on nous apprend dans nos sociétés hyper rationalistes à l'occidental qu'on est ce qu'on veut, qu'on décide de un peu de son destin, qu'on se fait nous-mêmes. Mais en réalité, ce n'est pas vrai, on est juste rien et on est un petit peu ballotté.
Et vous avez cet sentiment d'être rien, d'un rien qui est ballotté ?
Moi, j'ai le sentiment, je voudrais arriver à penser que la vie n'est pas seulement une succession de courses de haies qu'on saute les unes après les autres pour réussir je ne sais pas quoi, la course à la réussite sociale, encore moins à l'argent. Je voudrais arriver à être dans l'instant, vous voyez, comme on est là maintenant, à avoir un vrai échange, à pouvoir se échanger un regard, une complicité. En tout cas, à vivre à la fois dans l'instant présent, dans le carpe diem, et à la fois dans quelque chose d'une espèce de quelque chose de bien au-delà, qui fait que si je me dissous dans le grand tout, si je n'existe pas, si je suis juste un petit atome de rien du tout dans... Ça me va aussi.
Dans votre parcours, Florence Noiville, il y a votre mari.
Oui.
Et votre mari, c'est quelqu'un en France, c'est Martin Hirsch.
Oui.
Est-ce que ça a été important aussi ?
Ah bah, bien sûr, ça a été c'est extrêmement important, parce que ça fait 20... Là, on vient de fêter nos 25 ans de mariage. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est quelqu'un de très engagé, c'est quelqu'un de totalement désintéressé. C'est quelqu'un qui a choisi qu'entre être quelqu'un et faire quelque chose, il valait mieux faire quelque chose. Et je trouve que c'est complètement à rebours des idées dominantes dans la société d'aujourd'hui. Et je trouve qu'il fait des choses plutôt bien.
Votre interrogation, c'est comment vivre à fond, finalement, plusieurs domaines.
C'est ça, exactement. J'aimerais démultiplier les vies et je sais bien que ce n'est pas possible.
Comment vivez-vous cela avec vos enfants ?
Je voudrais leur dire à quel point la vie mérite d'être vécue et leur transmettre une espèce de joie. Et comme j'ai moi-même reçu une espèce de mélancolie de la part de mes parents, je sais bien qu'il y a aussi une part sombre que je ne peux pas complètement gommer. Mais d'une certaine façon, je voudrais leur dire deux choses. Que la part sombre, ça peut être aussi un moteur de créativité. Quand on regarde les grands maniaco-dépressifs de l'histoire, c'est fou. Van Gogh en a été un, Churchill en a été un. Presque tous les créateurs sont minés par quelque chose d'extraordinairement noir, sombre, pessimiste, etc. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils n'ont pas, et je les ai aussi, des élans de joie, de gratitude, d'émerveillement, ça c'est sûr. Et alors du coup, j'ai envie de leur dire à mes enfants, prenez la vie dans sa complexité, et puis... Tâchez de l'accepter sans forcément essayer de comprendre.
Et c'est sur cet entretien avec Florence Noiville que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français et sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français. Bonne semaine à tous.